Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus. Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles sur 92.1 FM, comme chaque mercredi en direct 19h-19h30 et le jeudi en rediffusion dès 13h30, la petite demi-heure des spectacles qui ont lieu à Bruxelles. Création, œuvre originale, reprise, il y en a pour tous les goûts. Hein. Bruxelles regorge de théâtre et tous les soirs jusqu'au réveillon même. Ça, on en reparlera une prochaine fois. J'ai à mes côtés Nicolas La Technique. Bonsoir, bonjour Nicolas.
Salut.
Et Elisabeth.
Bonjour, bonsoir.
Et on essaye d'avoir des chroniqueurs et des personnes par téléphone. Alors cette semaine au théâtre, plusieurs expériences. On ira du côté du public avec un Molière, Georges Dandin in Africa, mis en scène par Guy Tenissen.
Brigitte Bayeux.
Et Brigitte Bayeux. On ira du côté du poche. Hein. On n'échappe pas. Le titre interpellera les amateurs du genre. Monologue de la marijuana pour les amateurs et plus de la Marie-Jeanne. Spectacle qui se déroulera jusqu'au 31 décembre. On ira du côté de Tournée Générale. Le Théâtre National et le KVS échangent leur spectacle franco-flamand, leur coup de cœur. On ira voir le premier coup. Hein. C'est un festival lancé sur plusieurs mois. Et le premier coup est fort. C'est Bâle de Bertolt Brecht. Déjà une pièce inédite. Et en plus, une coproduction, une production des interprètes des deux communautés, c'est quasi une révolution sur la scène du théâtre belge. On ira faire aussi un autre tour du côté des Halles de Schaerbeek, là, avec un fameux projet. On le sait, hein, Fabienne Verstraeten est très engagée, a une direction, une programmation qui appelle un chat, et ici, elle nous ramène un programme Briser le silence, Breaking the Silence, la réalité de l'occupation vue par des anciens soldats israéliens. C'est très étonnant comme festival, on va dire, si on peut appeler ça un festival. Mais là, je me retourne vers Nicolas. Nicolas, est-ce que tu as Fabienne Verstraeten au téléphone?
Alors non, ce sera après la pause, on va essayer, mais on a Catherine. Alors, est-ce qu'on commence avec Catherine?
Bon, honneur à tous les amateurs de Marie-Jeanne, peut-être à Radio Campus, ils sont nombreux ou pas. Allez savoir, Catherine, tu es partie fumer aux poches?
Fumer, pas tout à fait, mais je dois dire que c'est une pièce qui donne furieusement envie d'aller rouler un joint après la pièce. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, les comédiens invitent tous les spectateurs à fumer avec eux après la pièce. J'en ai pas vu beaucoup qui le faisaient vraiment, ou alors ils se sont cachés. Mais voilà, clairement, on est dans ce registre-là. Donc, c'est les monologues de la marijuana. En ce moment, au Théâtre de Poche, c'est une pièce qui vient des États-Unis. Donc de trois auteurs américains qui s'est créé un petit peu sur le modèle des monologues du vagin, mm-hmm. d'Eve Ensler. Donc voilà, c'était trois femmes sur trois tabourets qui parlaient au nom de toutes les femmes, qui parlaient du vagin, mais évidemment c'était un prétexte pour parler de féminité, de féminisme. Ici c'est vraiment exactement le même modèle, donc on a trois hommes. Trois tabourets, c'est pas du tout du théâtre, il y a pas vraiment de mise en scène, c'est vraiment plutôt du stand-up, hein, comme on dit. Voilà, c'est un registre hyper léger.
Ce sont des témoignages de fumeurs?
Il y a un des comédiens qui commence en disant, voilà, on est là pour vous parler de la marijuana et on a parlé à tout type de consommateurs, des États-Unis à la Chine. Mais finalement, c'est pas du tout sous la forme de témoignage, c'est plutôt sous la forme d'une bonne grosse rigolade sur le thème de la marijuana. Ça s'assume complètement comme ça, on n'est pas du tout dans le registre moralisateur, bien au contraire. Même si, bon, parfois, il y a quelques petits messages qui passent, notamment sur le fait de fumer au volant. Mais en gros, c'est plutôt de l'autodérision en fait sur les attitudes de fumeurs de joint. Mm-hmm. Et donc c'est assez drôle, c'est bien senti. Si on a déjà fumé, on s'y retrouvera forcément. Si on a des enfants qui ont fumé, on s'y retrouvera. Si on a fumé quand on avait, je ne sais pas, dans les années 60 et que c'était vraiment beaucoup moins banalisé qu'aujourd'hui, on s'y retrouvera. Enfin voilà, ça...
Est-ce qu'il y a le message du débat sur la drogue, la libéralisation ou ce genre de choses, où vraiment on est dans un mode ludique et dans des expériences
En tout cas, c'est abordé, ça c'est sûr, puisqu'il parle notamment de la Hollande, où apparemment ils sont en train de préparer une loi qui réserverait leur coffee shop aux Hollandais ou alors aux détenteurs de cartes de membres. Donc voilà, eux le prennent comme un deuil quasiment. Donc oui, on en parle, mais vraiment, c'est toujours, toujours, toujours sur le mode de l'humour. On en rigole. Évidemment, les spectateurs sont complètement acquis à la cause parce que on imagine bien que les gens qui vont aller voir une pièce qui s'appelle Les Monologues de la Marijuana, ce ne sont pas les spectateurs les plus coincés.
Dit Catherine, oui, mais aux poches, c'est quand même une variété d'âge. Il y a quand même des personnes âgées, on va dire, qui viennent, tu en as vu quand même.
Ah oui, mais il y a tous les âges, hein, mais je pense que maintenant les gens fument à tous les âges. Hein. Mm-hmm. C'est pas du tout une pièce qui s'adresse qu'aux jeunes, bien au contraire.
Non, c'est vrai, ceux qui avaient 18 ans en 68, ils n'ont plus 18 ans maintenant. Hein.
Voilà.
Ils ont peut-être encore toujours le petit rouleau, là.
Exactement.
Et au niveau de la mise en scène, est-ce qu'il y a de la fumée? Ils nous ont fait le coup de la fumée ou pas?
Pas du tout. Okay. Alors là, pas du tout. Non, ils fument absolument jamais. Ni au début, ni à la fin. Donc c'est tout dans la suggestion. Donc ce sont trois comédiens aussi d'âges différents. Donc le plus jeune, c'est en fait James Dino, qui est un rappeur. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fils du commissaire.
Oui. C'est lui. Et humoriste aussi. Hein,
et elle est maintenant humoriste, voilà. Et donc il surfe un petit peu sur ce registre-là avec deux autres compères. Il y a Stéphane Fenocchi, qu'on voit plutôt dans un théâtre, je vais dire plus classique, plus narratif en tout cas, notamment avec le Zut, à l'époque où ça existait encore. Et puis Riton Liebman, que moi je ne connaissais pas, mais
extraordinaire.
Qui est apparemment un comédien.
Mais donc c'est quand même une belle brochette de comédien. Ça.
Et peut-être, ça marche bien.
Et pas de femmes. Tiens, c'est curieux, pas de filles.
Non, pas de filles. C'est vrai que c'est très masculin.
Et la dynamique fonctionne, je veux dire, ils débarquent un par un ou bien c'est vraiment un trio sur scène?
Non, bah c'est vraiment, vraiment, pour ceux qui l'ont vu, c'est comme les monologues de la marijuana. Donc ils sont tous les trois
monologue
ensemble
du vagin,
tout le temps.
Tu veux dire.
Pardon, les monologues du vagin. Et on se renvoie la balle tout le temps et on saute d'un thème à l'autre et on se moque beaucoup de soi. Et il y a par exemple à un moment donné toute une brochette de blagues typiquement marijuanesques, je vais dire. Donc c'est vraiment un humour, on sent que c'est des blagues qui sortent quand on a vraiment fumé beaucoup. Et donc on pourrait se dire que ça ne fait rire que les gens qui sont autour en train de fumer eux-mêmes. Et pourtant ça marche, ça fait rire. Donc voilà, ça se moque un petit peu de l'hypocrisie de la loi aussi, mais sans jamais enfoncer le clou. Donc moi, j'y allais avec quelques préjugés, je dois dire, et j'ai passé une soirée vraiment divertissante.
Est-ce que c'est le spectacle de fin d'année du Poche?
Alors pour l'instant, de ce que moi j'ai vu dans les spectacles de fin d'année, c'est celui que je recommanderais. Maintenant, il y en aura peut-être de meilleurs à venir. Mais franchement, pour se mettre de bonne humeur pour le réveillon, je le recommande chaudement.
Surtout que pour une fois, les monologues du vagin se joueront le 31 décembre. D'habitude, le poche ferme. Donc le poche ferme généralement pour laisser place au bar des clandestins. Mais ici, ils seront là le 31 décembre.
C'est vrai que cette fois-ci, ça se joue jusqu'au 31 décembre. Et en fait, c'est repris aussi en avril au Théâtre de Poche. Et je pense que ça fonctionne du tonnerre. Donc, si vous avez envie d'y aller, allez-y. En tout cas, réservez vite.
C'est une belle accroche de titre. Hein. De toute façon, avec les monologues, on peut faire de tout. Hein. Du vagin, c'est accrocheur. De la marijuana, c'est accrocheur. On attend le prochain titre.
Le monologue de la moumoute.
Voilà, le monologue de la moumoute. Avis aux auteurs qui nous entendent et aux metteurs en scène. Catherine, merci beaucoup. À la semaine prochaine pour une spéciale fête de fin d'année.
Merci, à bientôt.
Ciao, ciao.
Elisabeth, toi, tu es partie voir un autre registre.
Un autre registre, mais quand même quelque chose de festif et qui nous amène vers le métissage, effectivement. Puisque c'est Georges Dandin in Africa. Alors Georges Dandin, c'est quoi? C'est une pièce de Molière écrite en 1668. C'est une pièce qui est tout à fait particulière dans l'œuvre de Molière, parce qu'en fait, c'est une comédie. Donc, on a tous les ressorts de la comédie, les quiproquos, on a toute cette lutte de classe comme ça, où les valets sont quand même parfois plus malins que leur maître et des choses comme ça. Et puis, au beau milieu de tout ça, on a ce personnage de Georges Dandin, qui est un personnage totalement tragique, qui traverse en fait cette pièce d'une manière totalement linéaire, parce qu'en fait, il est le dupe du début jusqu'à la fin. Il n'a pas la possibilité de s'en sortir, et son seul recours, c'est d'aller se dans le fleuve. Donc on voit que dans cette comédie, dans tout ça, il y a vraiment ce personnage-là. Ce qui fait que c'est une pièce étrange qui n'est pas montée très très souvent, mais voilà, je pense aussi que c'était quand même quelque chose avec du ballet, donc quand on prend que la partie théâtre, elle est assez courte. Et en fait, Guy Tennyson a pris ce Georges Dandin. On sent déjà la prémisse de quelqu'un qui est le dupe, de quelqu'un qui se fait bastonner quand même aussi tout le temps. Et un autre ingrédient important de cette pièce, c'est l'indépendance de la femme qui commence à se faire sentir. Puisque ce fameux Dandin, en fait, a épousé au-dessus de sa condition. Donc c'est lui un riche, probablement un ancien fermier qui a réussi, et qui épouse une demoiselle de Sautenville, parce que ça fait joli. Il s'en mord évidemment les doigts. Mais la dite demoiselle de Sautenville n'a pas envie d'être mariée et de faire en fait l'affaire de ses parents qui vont renflouer leur caisse. Et donc on a déjà ce personnage de la femme comme ça qui commence à se libérer chez Molière. Donc on a deux vins dans ce texte-là, le dupe et la libération. On place tout ça dans un contexte africain. On commence à sentir le potentiel qui arrive et qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire. Or, Guy Tennyson est un comédien, mais aussi un metteur en scène qui a une expérience de théâtre en Afrique, où il a été, depuis les années 2000, il a monté deux, trois spectacles là-bas qui ont été repris, etc.
Ici,
donc,
oui.
Il y a cette expérience qui s'est faite sur le terrain, et c'est d'une certaine manière ça qu'il nous raconte, puisqu'il a pris la pièce de Molière, il y a rajouté des scènes, qu'il a écrit et qui en fait met lui-même en scène, lui mettant en scène des comédiens africains sur des textes, etc. Ce qui fait qu'il nous propose ici une distribution, si je ne m'abuse, ils sont 6, 3, 2, 3 blancs, 4 blancs, je ne sais plus compter, mais enfin des blancs, des noirs, enfin en tout cas 3 comédiens.
Distribution mixte.
Voilà, d'origine africaine qui sont là. Et tout commence, on attend le metteur en scène, et puis le metteur en scène arrive, hop, on saute dans les costumes, et donc Molière arrive. Il y a plusieurs interruptions comme ça, notamment un des fils conducteurs, et une des interruptions, c'est quand un comédien noir refuse de se mettre à genoux face à un comédien blanc, parce que ça rappelle des choses, etc. Et donc, c'est une des choses que Guy Tennyson explique aussi, c'est qu'il s'est rendu compte, quand il était là-bas, à faire ce travail-là, qu'il était confronté à une blessure. Et donc, c'est ça, un travail sur cette blessure, et chaque personnage incarne sa part de la blessure. On a par exemple une des comédiennes africaines qui, elle, vit ici, qui donc est une africaine mais vivant en Europe, mariée à un blanc, des choses comme ça. On a une blanche qui est en Afrique, qui rencontre un africain, donc on a déjà le pendant. Il y a ce personnage du metteur en scène qui lui dit ok, là, en 1960, moi désolé les gars, j'étais pas là, mais malgré tout on a cette espèce, est-ce que c'est de la culpabilité, etc. Donc toutes ces pistes là arrivent, sont vraiment prises en charge par les personnages. On est dans un théâtre qui monte ses codes, donc on se change, on est dans le Molière, on en sort, etc. Ça fonctionne, ça roule. Donc, ça fait un spectacle. C'est une manière à la fois intéressante de revoir Molière aussi. C'est plus, je dirais, un spectacle qui fonctionne sur la résonance, en fait, que toutes ces thématiques approchent, que vraiment d'une thématique. Parce que comme il y a une forme d'éclatement, il y en a beaucoup, on peut se dire, qu'est-ce que c'est l'après-colonialisme? Enfin, après les colonies, qu'est-ce que c'est maintenant? À un moment donné, deux comédiens africains se disent, mais attention, toi, t'es pas de la même ethnie que moi. Donc voilà, il y a toute cette problématique clanique, tribale qui existe encore.
Créer une pièce, il y a aussi le débat.
Bien sûr, voilà. Donc c'est à la fois des choses qu'on a déjà vues, mais qui fonctionnent assez bien. Ce que j'ai trouvé quand même un petit peu dommage, c'est qu'à un moment donné, ça devient malgré tout explicatif, parce qu'à un moment donné, on lui dit mais c'est quoi finalement ton projet? Alors c'est probablement quelque chose qui dans l'espace du travail s'est passé, mais là, on se lance dans une explication. Ça m'a pas semblé utile, parce que je crois qu'on comprend sans ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un peu une chose. Autre au niveau de la mise en scène, à un moment donné, on est dans la salle des voûtes au public aussi, qui est une salle avec une visibilité difficile quand même. Et puis, il y a quand même des scènes où, par exemple, les personnages sont dans leur pensée. Pouf, on coupe la lumière, mais on coupe un peu le contact avec les comédiens aussi. Donc, dans ce genre de salle, je ne trouvais pas ça très, très utile. Il y a dans la distribution quand même notamment deux comédiens africains qui ressortent et qui font que c'est effectivement une jolie proposition, notamment pour les fêtes. Donc, c'est Pabetita Sadjo et Etienne Mimounyou. Mm-hmm. Donc voilà, ils sont particulièrement présents dans tout ce spectacle.
Bettina Sadjo est une jeune comédienne voilà, d'origine africaine tout en Belgique
oui,
qui
bien
est très
sûr.
Remarquée quand elle
oui.
joue. Elle a une
oui, oui, donc, voilà, elle est là et c'est vrai qu'elle illumine un peu tout le spectacle. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est un des atouts de ce spectacle en tout cas.
Alors Georges Dandin en Afrique.
Voilà, et c'est également jusqu'au 31, donc voilà, c'est peut-être aussi une idée pour votre réveillon.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Eh bien, ça réveille, Nicolas, nous qui croyons que le Mossad avait kidnappé Fabienne Verstraeten, mais je pense qu'elle est au bout du fil. Bonsoir, Fabienne.
Bonsoir, Nurten.
On a eu peur, on s'est dit, le Mossad t'a kidnappé.
Non. Alors... c'était une conférence au Parlement européen à propos de la Syrie.
Eh bien, justement, on ne peut pas dire que tu n'es pas une femme qui a des poings armés. Alors, qu'est-ce que tu nous fais ici? Breaking the silence?
Oui.
Une programmation osée, non?
Oui, oser, mais juste par rapport au travail que font les Halles sur cette région, sur le Moyen-Orient, et en particulier au départ de l'occupation de la Palestine par Israël. Mm-hmm. Donc pour nous, c'est juste une continuation d'un travail que nous avons entamé il y a 3 ans, mm-hmm. et qui consiste en fait à aller chercher en Israël les voix d'activistes et d'artistes qui travaillent sur la question de l'occupation de la Palestine.
Ce qui est rare, parce que d'habitude, c'est plutôt du côté des Palestiniens ou des Arabes. Ici, tu es parti prendre des voix tout à fait inattendues, c'est-à-dire d'ex-militaires israéliens.
Oui, voilà, mais c'est un travail qui existe depuis plus de 10 ans en Israël, des ex-soldats, enfin des ex-soldats aujourd'hui, mais qui ont décidé de documenter et de briser le silence par rapport aux exactions de l'armée israélienne dans les territoires occupés.
Mmh. C'est un collectif, une association à qui tu as donné carte blanche ou il y a une programmation qui a été ficelée?
Alors, Breaking the Silence, c'est une association qui existe depuis longtemps et qui a monté une exposition qui circule un peu partout en Europe, une exposition de photographies documentaires. Mm-hmm. Autour de cette exposition, qui est présentée pendant 15 jours au HAL, on a, comme toujours, bâti une programmation plus artistique en invitant des artistes qui font exactement le même travail que Breaking the Silence, mm-hmm. mais avec des moyens artistiques. Donc ce soir, là tout à l'heure, à 20h30, nous allons montrer le film Z32 d'Avi Moghrabi, c'est un des tout grands cinéastes israéliens. Demain soir, nous accueillons Simone Bitton, qui était aussi une cinéaste, mais qui, cette fois, a utilisé les moyens de la radio et qui a créé une émission radiophonique à partir des témoignages publiés dans les livres de Breaking the Silence. Ce sont autant de documents, en fait, écrits d'interviews de soldats. Et à partir de ces interviews, Simone Bitton a constitué cette radiophonique. Et donc, durant toute la semaine, il y a une programmation artistique qui entoure l'exposition des activistes de Breaking the Silence.
Est-ce que certains sont venus? J'ai cru entendre que certains étaient venus, certains soldats, ex-soldats.
En fait, l'exposition est accompagnée par la présence de soldats qui guident, enfin d'ex-soldats, je précise, qui guident le public et qui expliquent l'ensemble des images. Et c'est très très important parce que c'est tout un accompagnement pédagogique pour le public.
Fabienne, nous, on n'a pas eu le temps de voir l'exposition qui a commencé le 1 et qui dure jusqu'au 17. Quelle est la force de cette exposition? Qu'est-ce qu'elle raconte?
Mais la force de cette exposition, ce sont des images qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisqu'on est habitué soit aux images qui nous viennent de la Palestine elle-même, ou alors de la presse qui est présente dans la région, mais on n'a pas du tout l'habitude de voir des images qui nous viennent de l'intérieur d'Israël. Et ce sont des images extrêmement fortes, parfois difficiles à voir, mais qu'il est nécessaire de regarder.
Mmh. Et il y a aussi les témoignages de voix.
Oui, alors l'exposition en fait s'accompagne aussi de vidéos. Il y a 3 ou 4 vidéos. Et puis il y a tout ce travail donc, que nous avons complété par des voix plus artistiques.
Moi, je voulais parler d'une performance qui a lieu ce samedi et qui s'appelle Plomb durci ou Winter Family.
Oui, donc Jérusalem Plomb durci, qui est en fait une performance à la fois en images et en son, créée par Ruth Rosenthal, qui est une jeune israélienne qui vit aujourd'hui en France. Et c'est une performance aussi extrêmement forte, où elle essaye de montrer, à travers un ensemble de documents visuels et sonores aussi, à quel point l'État israélien exerce une sorte de dictature émotionnelle sur les citoyens israéliens depuis l'enfance jusqu'à un âge adulte très avancé.
Est-ce qu'on peut dire que ce que tu viens de dire est le fil de tout ce Breaking the Silence? Est-ce que dans l'expo, d'après les documents que j'ai lus, apparemment il y aurait juste, on ne va pas dire cette propagande, mais c'est un peu comme, sur les Israéliens eux-mêmes, par leur gouvernement et par leur armée?
Oui, non, c'est plus que ça. Ce sont tout simplement des images qui sont prises par les soldats dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, on ne parlera pas du tout d'images de propagande, mais simplement de documents, témoins de ce qui se passe.
Fabienne, pour créer cette programmation, est-ce que tu as eu des emmerdes? Est-ce qu'il y a eu des soucis? Est-ce que ça a été facile?
Non, pas du tout. Non. Il n'y a eu aucune difficulté. Breaking the Silence, c'est une association qui a pignon sur rue en Israël, qui est bien sûr menacée, puisqu'on sait que l'État d'Israël veut faire en sorte que des subsides ne soient plus octroyés aux associations, des subsides qui viennent du monde occidental, de l'Europe, etc. Mais Breaking existe, et les artistes aussi, ils font leur travail qui est montré à différents endroits en Europe. Donc il n'y a pas eu de difficultés particulières, et pour nous c'est tout simplement, j'insiste beaucoup, un travail de continuité en fait, après le grand massacre de Palestine de 2008.
Bien sûr, mais on a l'impression que c'était une voix qu'on avait du mal, nous, à voir ici, en tout cas en Belgique et dans les théâtres. Ça, non,
oui,
en parlant même
oui,
pas,
oui,
mais...
de toute façon, ça c'est vrai. Voilà, ce sont des choix très très volontaires que nous faisons au Hall de Schaerbeek pour aller chercher ces voix particulières.
Juste un dernier mot, ce samedi, il y a un débat ou une conférence?
Oui, en fait, il y a une table ronde qui va réunir tous les protagonistes de la semaine. J'ai oublié de dire que nous accueillons aussi vendredi à Haas, qui est une journaliste israélienne qui vit à Ramallah et qui témoigne du quotidien, et elle publie ses articles dans le quotidien Haaretz en Israël. Et donc l'ensemble des protagonistes, aussi bien les ex-soldats que Simone Bitton, Amira Haas, seront présents pour une table ronde dans la journée de samedi au Hall. On va se pencher évidemment sur la question de l'armée israélienne, mais aussi de où en est Israël aujourd'hui. Est-ce que Israël est encore une démocratie ou pas? Et donc on va aussi essayer d'aborder le présent, en fait. Par exemple, se poser la question du mouvement des indignés en Israël, puisqu'il y a un mouvement des indignés. Jusqu'où va-t-il? Est-ce qu'il franchit la ligne rouge ou pas? Donc voilà, autant de sujets qui sont quand même très très brûlants.
Merci Fabienne, et à samedi, on va rappeler toutes les dates. À bientôt.
Merci Nurten.
Merci, au revoir. Donc, Breaking the Silence.
Alors, Breaking the Silence, ça se passe donc jusqu'au 17 décembre du côté des Halles de Schaerbeek.
Pour l'expo.
Pour l'exposition, évidemment, et avec, comme on le disait, différentes choses. La table ronde qui se déroulera samedi, mais avant ça, demain, jeudi soir, le 8, Briseur de silence, avec Simone Bitton, qui sera là, donc, la réalisatrice. Et le 9 décembre, aussi, une autre conférence-débat avec Aramir Haas, une conversation autour de Breaking the Silence, sans oublier la performance qui a lieu jusque samedi également, Jérusalem Plomb durci, un voyage halluciné dans une dictature émotionnelle par la Winter Family.
Moi, je dis chapeau. Alors, un site internet, www.halle.be.
Un petit mot sur Bâle, peut-être?
Autre
encore
coup de chapeau, c'est tournée générale quand même. Le théâtre flamand KVS et le théâtre francophone du National sont potes. Ils sont déjà voisins et ils sont potes. Et donc, depuis 2006, ils font une tournée générale. Ils échangent en fait leurs coups de cœur. Ils se disent que bon, il y a peut-être nos théâtres n'ont pas vu les spectacles respectifs des autres, donc ils s'échangent. Ce qu'il y a, c'est que ça va se dérouler en 3 mois, donc on aura le temps de vous en parler au coup par coup. Ici, c'est juste qu'ils ont commencé et c'est juste que samedi, avec un
un spectacle qui s'appelle « Bal » de Bertolt Brecht, un spectacle tout à fait inédit parce que c'est une œuvre de jeunesse, c'est la première pièce de Brecht, qu'il écrit en 18, donc au sortir de la guerre, avec tout l'expressionnisme allemand derrière, la nervosité. Ce n'est pas le bal plus dialectique, distanciation, que l'on connaît plus tard. C'est vraiment une des pièces les plus arrachées, on va dire.
À fleur de peau, on peut le dire aussi.
Fiévreux. On comparait avec un ami à Pat Doherty ou à Rimbaud. Bal est le personnage de cette pièce et c'est son errance fiévreuse où il clash dans tout. C'est un jouisseur face au monde et peu importe s'il laisse une femme enceinte en cours de route, s'il s'occupe pas de sa mère. Il est vraiment dans une déchéance totale. C'est le poète qui ne s'intègre pas et il va de déchéance en déchéance jusqu'au crime final. Il y a tout un univers très fiévreux dans ce personnage-là. Ce qui est intéressant, c'est d'abord, c'est une pièce costaud à mettre. Il y a tout un langage assez rentre-dedans. Et alors, surtout, c'est la mise en scène. Donc, c'est Jo Verbies et Raven Ruel qui ont mis ça en scène, des metteurs en scène néerlandophones, qui ont travaillé à Liège, au conservatoire. On ne le voit pas, mais il y a des échanges comme ça, nord-sud, on va dire, en Belgique. Et ils ont fait une distribution mixte avec des comédiens flamands et des comédiens francophones. Je ne crois que ça s'est quasi jamais arrivé. Il y a Jean-Benoît Hugeux, où il y en a deux, trois comme ça qui vont travailler de l'autre côté de la frontière, on va dire. Et ici, qui jouent tous ensemble, c'est assez surprenant. Et ce qui est magnifique, c'est bien un francophone qui joue le rôle de Bal. Et c'est Vincent Henbic. Et il joue 1h50 dans un jeu tout à fait fiévreux. Il ne perd pas une seconde son énergie. Moi, je l'ai vu en français. Ça va jouer en flamand. On m'a dit qu'ils ont répété, mais comme des malades, avec à 6000 dans les oreilles sous iPod pour essayer d'apprendre.
C'est Jos Verbies, en fait, qui leur lisait le texte. Et Vincent Henbic m'expliquait qu'il est, lui, d'origine française, en plus. Hein, donc, il n'a pas de prédestiné à apprendre le néerlandais. Avait ça à longueur de journée, donc, pour avoir cet accent. Le trac a été, lors de la première, quand ça a été présenté en néerlandais à Courtrai. Et ça s'est très bien passé, apparemment. Moi, je n'ai pas vu la pièce. J'ai juste rencontré l'équipe. Ce qu'il faut signaler, surtout dans cette période de crise politique, bon, maintenant qui est achevée, mise en suspens, on va dire, c'est qu'ils n'y mettent pas de gestes politiques belgo-belge dans cela. Raven Ruel m'expliquait que tout simplement, il voyait Vincent Henbic comme le seul comédien qu'il connaissait à pouvoir interpréter ce bal. Voilà, et tout simplement.
Le rôle lui va tellement bien, il est sur un fiévreux. Alors, faut pas s'attendre, comme moi j'ai longtemps travaillé sur bal, sur Brecht, faut pas s'attendre au Brecht politique de la distanciation. Ça, c'est sa réflexion qu'elle vient après. C'est une première œuvre d'un gamin qui a 20 ans et qui sort de la guerre. Donc, il y a toute cette fugosité et tout ce délire. Fiévreux, c'est une descente en enfer qui est très bien menée, très chorale, avec quelques vidéos et un jeu psychologique, même si Brecht justement après a rejeté ce rôle psychologique. Donc c'est vraiment une pièce inédite à plus d'un titre. C'est dans le cadre de tournée générale à voir au Théâtre National, un spectacle invité du KVS au National jusque dimanche.
Jusque samedi. Hein,
jusque samedi, pardon.
Oui, le 10 décembre, www.theatrenational.be.
Voilà, ainsi se termine la conspiration des planches. Il nous reste quelques mercredis pour parler des spectacles de fin d'année. Merci Elisabeth, à la semaine prochaine.
Et bonne semaine en tout cas.
Au revoir Nico, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et n'oubliez pas le podcast de cette émission sur demandezleprogramme.be et dans le centre de ressources de La Bellone, www.labellone.be. Belle semaine à vous. Constelación.